Il est 4 heures en temps universel. Réglez vos montres, il est 5 heures à Paris. On a changé d'heure cette nuit. Et vous êtes bien sur Radio France Internationale, le journal. Juliette Pietraszewski, bonjour Juliette.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. À la une de ce journal, les législatives anticipées au Japon. Le nouveau Premier ministre Ishiba et son parti libéral-démocrate espèrent obtenir la majorité absolue, ce qui s'annonce compliqué. La raison, un scandale politico-financier et les jeunes électeurs ne sont pas au rendez-vous. Au Proche-Orient, au lendemain des frappes israéliennes en Iran et sur des cibles militaires, Téhéran parle de dégâts limités et de 4 militaires tués. Les pays du Golfe, alliés des États-Unis, condamnent ces frappes de Tel Aviv. En France, après un fait divers rapporté par un média américain, le registre national des refus pour le prélèvement d'organes s'agrandit. On vous explique tout en fin de journal. Au Japon, les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour des législatives anticipées qui s'annoncent compliquées pour le parti du nouveau Premier ministre Ishiba. Ces élections ont été déclenchées à la suite de la décision du nouveau Premier ministre lui-même de dissoudre la chambre basse du Parlement. Le parti de droite au pouvoir, que le chef de gouvernement préside, redoute de perdre de très nombreux sièges, alors qu'un scandale politico-financier entache cette caste politique. Après 30 années de déflation, l'envolée des prix aussi mécontente les Japonais. Ce qui est très probable en tout cas, c'est que, en majorité, les moins de 30 ans ne voteront pas. Dans l'archipel, en effet, scrutin après scrutin, le taux d'abstention ne cesse de croître dans cette tranche d'âge. À Tokyo, Bruno Duval.
Aux dernières élections législatives, il y a 3 ans, 6 jeunes Japonais sur 10 n'ont pas voté, soit beaucoup plus que le taux d'abstention global, toute tranche d'âge confondue, de 45%. Ces étudiants tokyoïtes, pareillement, ne comptent pas se rendre aux urnes.
N'ayant jamais vu mes parents voter, ça ne me paraît pas problématique de m'abstenir.
Je voterais si on pouvait le faire d'un clic, par ordinateur ou avec un smartphone. Mais là, me taper la queue devant un bureau de vote, non merci.
À quoi bon voter? C'est toujours le même parti qui est au pouvoir. Et ça ne changera sans doute jamais.
De toute manière, nos politiciens se fichent des jeunes. Seuls les vieux les intéressent. Donc pourquoi est-ce qu'on voterait pour eux?
Près d'un Japonais sur 3 ayant 65 ans ou plus, et cette tranche d'âge s'abstenant peu, elle a toujours été la priorité numéro 1 des dirigeants. Au détriment des jeunes, dans l'archipel par exemple, seuls 8% des dépenses publiques sont consacrées à l'enseignement, contre 12% en moyenne dans les autres pays industrialisés. La classe politique japonaise est assez âgée et en plus, autre facteur qui n'incite pas les jeunes femmes singulièrement, à aller voter, elle est très masculine, jusqu'à la caricature. 90% des députés sortants, comme des ministres d'ailleurs, sont des hommes. Et c'est le cas également de 3/4 des candidats à ce scrutin. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Et le nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a assuré aujourd'hui lors d'un meeting à Tokyo que son parti libéral-démocrate voulait repartir sur de nouvelles bases en tant que parti équitable, juste et sincère. Fin de citation. À noter que plusieurs sondages annonçaient cette semaine qu'il serait difficile d'obtenir une majorité absolue pour le parti. La Géorgie s'éloigne de l'Union européenne. Le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, serait en tête avec plus de 53% des voix après les législatives hier. Une victoire contestée par l'opposition qui dénonce une usurpation du pouvoir et un coup d'État constitutionnel. Au lendemain d'une nuit marquée par des tirs israéliens en Iran sur des sites militaires, Téhéran a fait quelques déclarations ce samedi et a affirmé son droit à se défendre. Le bilan de cette attaque israélienne est de 4 militaires iraniens tués selon Téhéran. Cet épisode, le dernier en date des hostilités entre les deux nations, a attiré l'attention des pays du Golfe. Ils condamnent les frappes de Tel Aviv, même si certains ne nomment pas Israël. Ces pays alliés des États-Unis et qui ont parfois même des relations avec Israël sont confrontés à un véritable jeu d'équilibriste. Ils abritent des bases américaines, sont très proches géographiquement de l'Iran, largement à portée de tir. Ils souhaitent donc éviter la colère de Téhéran, analyse la chercheuse pour la fondation Carnegie de Washington, Yasmine Farouk.
Ils sont tous d'accord sur un seul objectif, qu'ils ne veulent pas devenir la scène de cette escalade militaire ou cette bataille, si vous voulez, entre l'Iran et Israël. Donc ils essayent dès le départ de trouver un espace pour ne pas devenir la cible de l'Iran, parce que Israël et les États-Unis, le risque pour les pays du Golfe, c'est qu'ils utilisent leur territoire ou bien leur espace aérien ou même maritime pour frapper l'Iran. Et dès le départ, la position des pays du Golfe, c'est de l'interdire. Ça veut dire que si vous voulez frapper l'Iran, il faut passer par ailleurs. Et c'est ce que Israël avait fait et a fait afin d'éviter une représailles iranienne contre eux, chose que certains conservateurs ont menacé de faire après la première frappe israélienne. Tous ces pays-là, ça sert à leur intérêt de voir l'Iran affaibli, et l'Iran est significativement affaibli depuis le début de cette guerre. Mais en même temps, comme je viens de dire, ils veulent éviter que l'Iran ne s'en prenne à eux.
La chercheuse pour la Fondation Carnegie de Washington, Yasmine Farouk. Au Liban, un nouveau raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth ce dimanche matin a été annoncé par l'agence de presse nationale libanaise, ANI. Un fief du Hezbollah aurait été visé. Précédemment, l'armée israélienne avait appelé les résidents de deux quartiers de la banlieue sud de la capitale libanaise à évacuer leur logement. Après un an de guerre dans la bande de Gaza, l'armée israélienne mène une autre offensive au Liban depuis le 23 septembre dernier et diviser les bastions du Hezbollah. Plus de 1600 personnes ont été tuées au Liban depuis le début de cette opération, d'après un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Et près d'un million de personnes se seraient également déplacées dans et à l'extérieur du pays depuis le début de cette offensive israélienne. Le Ghana dément toute collusion avec des djihadistes. Le ministre de la Sécurité nationale du pays, Albert Kandapa, a rejeté hier dans un communiqué les accusations selon lesquelles des combattants islamistes venus du Burkina Faso utilisaient le nord du Ghana comme base arrière, profitant de la porosité des frontières. C'est l'agence Reuters qui avait avancé ces allégations. De son côté, le ministre de la Sécurité nationale du Ghana explique c'est totalement faux, un démenti ferme, pas de pacte passé, réagit-il.
Jamais nous n'avons envisagé une telle politique de non-agression. Si cela était vrai, pas besoin d'un journaliste pour le découvrir. Les agences de sécurité de toutes les parties prenantes, y compris la France, l'auraient su. Si vous allez dans le nord du Ghana, vous constaterez que nous avons réalisé des investissements considérables pour assurer la sécurité de nos agents et pour acquérir les moyens nécessaires pour repousser toute attaque terroriste contre notre pays. Nous croyons avoir fait ce qu'il faut pour résister à toute attaque et empêcher les djihadistes de recevoir du soutien des populations vivant le long de la frontière. Nous ne vivons pas dans la crainte d'une attaque terroriste au Ghana, ni aujourd'hui, ni demain. Mais bien sûr, nous sommes assez réalistes pour savoir que nous devons rester prêts au cas où un tel événement surviendrait.
Voilà pour cette réaction du ministre de la Sécurité nationale du Ghana au micro de Christina Okello. C'est un fait divers qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux. Il y a quelques jours, un média public américain rapportait le cas survenu il y a 3 ans d'un homme déclaré en état de mort cérébrale et qui se serait réveillé juste avant que ses organes soient prélevés. Tout ça dans un hôpital du Kentucky. Une enquête est en cours. Cette histoire, dont la véracité n'a pas été confirmée, n'est pas sans conséquences. En France, le nombre de personnes qui se sont inscrites sur le registre national des refus pour le prélèvement d'organes a bondi. De 100 inscriptions par jour, on est passé à 1000, a indiqué l'Agence de la biomédecine. Or, un tel cas, à supposer qu'il soit confirmé, ne pourrait pas se produire en France, explique le docteur Julien Rogier, médecin, anesthésiste, réanimateur et responsable de la coordination du prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Bordeaux. Écoutez.
La différence par rapport aux États-Unis, c'est que le diagnostic, il est régi par la loi en France. Et c'est un des rares actes médicaux qui est régi par une loi. Donc ce diagnostic est extrêmement encadré, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il est laissé à la latitude des médecins qui peuvent constater cliniquement la mort encéphalique. Donc je vous rappelle, la mort encéphalique, c'est un coma inréactif, sans conscience, sans mouvement, avec une disparition de tous les réflexes archaïques du tronc cérébral, c'est-à-dire au cerveau archaïque, et une absence de respiration spontanée. Deux médecins constatent ça, ça c'est le consensus international, et aux États-Unis ça suffit pour qu'on vous déclare décédé. En France, on fait exactement la même chose, sauf qu'en plus de la clinique, de par la loi, il est obligatoire de confirmer le décès par un examen qui peut être soit des électroencéphalogrammes, soit le plus souvent un scanner cérébral qui objectif que le sang ne circule plus dans le cerveau. Donc ça atteste bien la mort encéphalique. Donc le diagnostic, il est réglementairement imposé comme ça en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, c'est ce qui fait la grande différence pour dire qu'en France, le cas qui est décrit aux États-Unis n'aurait pas pu arriver.
Des propos recueillis par Valérie Cohen. Vous l'avez peut-être remarqué en écoutant RFI ce matin. Ce dimanche, à Paris, nous avons reculé d'une heure. Il fera donc nuit plus tôt. Un manque de visibilité qui pourrait augmenter les risques d'accident, notamment pour les cyclistes sur la route. Pour y remédier, l'association Assurance Prévention a lancé pour la seconde fois une opération de distribution de kits. Au total, 60 000 goodies ont été donnés dans 10 villes de France. L'objectif, eh bien, que les cyclistes et piétons soient plus visible. Elisa Robuchon a assisté à l'opération Place de l'Opéra à Paris.
Ça sur les pieds.
Ah ok.
Et ça c'est un petit sticker qui fait de la réflexion le soir.
Ouais, bah oui, c'est payant.
Non, c'est gratuit.
C'est super.
À la sortie du métro, démonstration avec les membres de l'association. Ils montrent aux passants comment utiliser les stickers et clips chaussures lumineux. Michael, un cycliste, pense pouvoir mieux s'équiper.
J'ai mon casque, j'ai une lumière sur mon casque et mon vélo est équipé de lumière à l'arrière et à l'avant. J'ai fait le minimum que je pouvais. C'est sûr que là, en voyant ça, votre objet, je vais le mettre en plus.
50% des cyclistes ne portent pas systématiquement d'accessoires réfléchissants. Alors sur place, Mermet Tosun, qui distribue les kits, sensibilise aux dangers de la route.
Cette nuit, on passe en heure d'hiver. Du coup, la nuit, vous attendez plus tôt. Donc à 18h, à 19h, les personnes qui veulent faire du vélo, pour leur sécurité, c'est super important qu'ils s'équipent bien et qu'ils soient bien visibles pour que les automobilistes font attention de leur côté aussi.
Ces kits s'adressent aussi aux piétons qui sont parmi les plus exposés aux accidents de la route après le changement d'heure. Leur mortalité augmente de 42% dans les jours qui suivent, d'après les chiffres d'Aris Interactive.
Elisa Robuchon. En Guadeloupe, Lille passe sa deuxième nuit d'affilée sous couvre-feu suite à une coupure généralisée d'électricité. Cette mesure concerne certains secteurs et vise à prévenir le risque de troubles à l'ordre public après les violences urbaines inacceptables. Déclaration du préfet dans un communiqué. RFI, il est 5h11 à Paris. L'actualité internationale continue. Restez avec nous.
RFI Matin. Juliette Pietraszewski.
Au programme des 20 prochaines minutes, nous irons en Australie, où les habitants de Manyama, 4 ans après les plus graves incendies du pays, militent contre la construction de 150 maisons de vacances. La chronique Défense nous emmènera, elle, en Belgique. La fabrique nationale belge de la région de Liège, spécialisée dans les armes automatiques et les mitrailleuses, a ouvert exceptionnellement ses portes à la presse. Au programme également, à l'heure où la COP16 se déroule à Cali, en Colombie, on s'intéressera à l'ours polaire, victime du dérèglement climatique, alors que la fonte des glaciers est toujours en marche. Et puis votre chronique Vivre ailleurs parlera du bottin mondial, premier annuaire pour les expatriés français. Le reportage international ce matin nous emmène en Australie. Manyana est une petite ville que vous connaissez peut-être. Elle est située dans une région qui a été très sévèrement touchée il y a 4 ans par des feux de forêt. Les habitants de la ville ont donc décidé de se mobiliser pour protéger la seule forêt épargnée par ces incendies dévastateurs. Mais aujourd'hui, cette ville est également menacée par un danger plus grand encore, celui d'être rasée entièrement pour y construire 150 maisons de vacances. Notre correspondant Grégory Pless s'est rendu sur place.
4 ans après les plus graves incendies qu'ait connus l'Australie, ces stigmates sont encore très visibles. Sur des kilomètres, des troncs d'arbres calcinés, recouverts partiellement par de la végétation, mais d'où presque toutes les espèces animales ont disparu. C'est d'ailleurs ce qui avait choqué Lorraine quand elle avait enfin pu rentrer chez elle à Manyana.
Quand on est revenu, c'était le silence total. Il n'y avait plus d'oiseaux, on n'entendait plus les bruits des insectes et les kangourous qui nous rendaient visite chaque jour avaient disparu.
Les feux dans ce secteur ont en effet ravagé 95% du parc national qui borde Manyana. Mais par miracle, une petite forêt de 20 hectares a été épargnée. Elle est logiquement devenue un refuge pour les animaux ayant échappé aux flammes. C'est ce que nous explique Lex, il est sauveteur animalier.
Les zones qui ont brûlé en Nouvelle-Galles du Sud sont plus grandes que certains pays d'Europe. Mais cette petite forêt, elle est un petit refuge qui est toujours là et qui est pleine d'animaux sauvages.
Bill le confirme en tout point, il est le président de l'association Manyana Matters.
Si vous regardez là-haut dans cet arbre, il y a un creux où vivent des mammifères arboricoles. Et ces griffures-là, vous les voyez? Ça, c'est quand des opossums volants atterrissent sur l'arbre. Cette forêt est pleine de ces exemples et pourtant elle va être détruite.
Il y a quelques jours, en effet, le ministère de l'Environnement a délivré à un promoteur l'autorisation de raser cette forêt pour y construire environ 150 logements de vacances. Une décision incompréhensible, selon Bill.
Une partie de cette forêt est considérée par le gouvernement fédéral comme un habitat en danger d'extinction imminent. Mais il va quand même être rasé par des bulldozers. Quelle est la logique dans tout ça ?
Les autorités elles-mêmes semblent avoir du mal à la trouver, chacun du niveau fédéral au conseil municipal local, se renvoyant la balle. Neville, un autre membre du collectif, se désespère du manque d'intérêt des autorités pour la question environnementale.
On parle du futur de nos enfants, de mes petits-enfants. Et j'aimerais que cette forêt reste telle qu'elle est. On finira par apprendre de nos erreurs, mais sûrement trop tard.
En attendant, le promoteur a positionné ses premières machines de chantier. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site internet rfi.fr. La chronique défense nous emmène en Belgique, dans la région de Liège. Là-bas, FN, la fabrique nationale belge, est spécialisée dans les armes automatiques et les mitrailleuses. C'est déjà un fournisseur privilégié de l'armée de terre française et l'entreprise pourrait aussi être amenée à jouer un rôle plus important encore dans le paysage industriel français, notamment avec sa capacité à produire des munitions de petit calibre. Et pour cette chronique défense, eh bien FN Herstal, peu connu du grand public, a exceptionnellement ouvert ses portes à quelques journalistes, dont Franck Alexandre pour Ligne Défense.
Donc ici, on est dans la cour principale de la FN Herstal. Donc derrière nous, on a un bâtiment de 1906, donc qui date de la création de la FN Herstal. On va aller ici à droite.
Et nous voilà dans le Saint-des-Saints, la fabrique hautement sécurisée d'armes à feu FN, un immense complexe industriel de 13 hectares, 1500 salariés et un dédale d'ateliers. Frédéric est notre guide.
Avant tout, la FN Herstal, c'est un centre d'usinage. L'armurerie, ça reste de la mécanique de haute précision.
Canon culasse cross, les armes prennent corps sur les tables d'assemblage. Monter une mitrailleuse, c'est presque de la haute horlogerie, insiste le directeur commercial Henri Deharen.
Les tolérances sont extrêmement précises. Tout ce qui est pièce mobile pour un fusil d'assaut ou une mitrailleuse doit être d'une immense précision. Nous devons travailler à des produits qui ont une durée de vie longue et une très haute fiabilité.
Et chaque arme doit passer une rigoureuse batterie de tests.
Chacune des armes individuellement va être testée dans les tunnels de tir là-bas derrière les murs. Et puis elles vont être redémontées, huilées, et puis remontées, emballées. Et la dernière étape, c'est la douane et puis ça part pour l'armée partenaire.
Quant aux munitions, elles sont fabriquées à Zutendal, à 40 km d'Herstal. Il y a également le champ de tir.
Lorsqu'on appuie sur la détente, on va en fait libérer l'ensemble des pistes mobiles.
Fusil d'assaut et de précision SCAR, mini-mitrailleuse MAC 58, pistolet mitrailleur, l'entreprise belge figure dans le top 4 du marché des armes de petit calibre. Les armes automatiques, c'est son ADN. FN équipe 80% des pays de l'OTAN. Henri Deharen.
Alors FN Herstal a été créé au 19e siècle, au départ pour équiper l'armée belge. L'entreprise est devenue un des leaders mondiaux dans son domaine, le domaine des armes légères. Alors on développe énormément de choses, ça peut être une amélioration des armes à feu elles-mêmes, et puis également des développements, par exemple dans le domaine technologique. Aujourd'hui on ajoute par exemple sur les armes des calculateurs balistiques qui vont permettre par exemple à des tireurs de précision, comme ceux de l'armée française, de tirer de manière extrêmement précise. On voit à quel point la défense redevient une question stratégique au cœur des décisions des États. C'est le retour d'une réflexion à long terme sur les questions de défense.
La France, qui ne produit plus ni fusils ni munitions de petit calibre, est un client fidèle de la FN Herstal. Un partenariat est d'ailleurs à l'étude pour produire des munitions de la fabrique belge et ainsi rebâtir en France une capacité militaire critique qui, à ce jour, fait cruellement défaut.
La chronique défense de Franck Alexandre. On en parle ces derniers jours dans nos journaux. La COP16 se déroule à Cali en Colombie et fermera ses portes le 1er novembre. À quelques jours de la fin de cette grande réunion, C'est dans ta nature nous parle d'un animal témoin direct du réchauffement climatique, l'ours polaire. La fonte des glaces menace l'existence de l'animal qui est devenu le symbole des animaux victimes du dérèglement climatique. On en parle avec Florent Guignard.
Il est le roi de la banquise, mais son royaume, l'Arctique, est en train de fondre.
La banquise disparaît.
à une vitesse importante, 90 000 km² par an.
C'est l'équivalent de la Jordanie. Christian Kern fait l'un des grands spécialistes de l'ours blanc qu'il côtoie depuis 50 ans, le plus grand carnivore terrestre, grand nageur et grand voyageur solitaire.
Il est extraordinaire. Il est obligé de vivre dans un climat extrêmement froid. En ce moment, par exemple, avec l'effet refroidissant du vent, le ressenti, c'est moins 70, c'est énorme. Il a un odorat environ 60 fois meilleur que celui de l'homme. Il se met toujours un peu en hauteur, parce que dès qu'il y a un obstacle, les odeurs remontent. Et l'ours, sur un iceberg, il dort, il a nerf de rien, mais fais-toi confiance, quand il a une odeur de phoque qui lui passe dans les narines, il réagit tout de suite.
Le phoque, c'est 95% de l'alimentation de l'ours polaire qui lui donne la graisse nécessaire pour se protéger du froid. Un mâle pèse à peu près 500 kilos et la moitié de son poids, c'est de la graisse. Alors quand la banquise disparaît, c'est son terrain de chasse qui rétrécit, mais l'ours blanc peut manger autre chose.
Il y a notamment les cadavres de baleines, c'est le cas aussi des morses. Parfois, on le voit même, je l'ai vu à plusieurs reprises, brouter de l'air ou manger des algues. C'est un pur carnivore, mais quand il n'a pas de phoque, ben, il prend autre chose.
J'avais pourtant fière allure dans mon costume en fourrure, mais j'ai quitté ma banquise, il n'y avait plus de friandises.
Il y a environ 20 000 ours polaires sur la planète, menacés à terme par le réchauffement climatique, mais aussi la pollution qui peut les rendre stériles. 8% des ours blancs du Canada ne peuvent pas se reproduire. Mais ce qui menace directement aujourd'hui les ours blancs, c'est la chasse. Christian Kampf.
Il y a une chose qu'on peut faire demain, après-demain. C'est un moratoire sur la chasse. À la place de tuer 1200 ours par an pour l'exportation de la peau, pour les griffes, les dents qui intéressent le marché asiatique, si on ne tuait que 500, on aurait assez rapidement, à l'espace de 15 ans, 30 000 ours.
À la Sauvette, j'ai pu embarquer. Sur un iceberg, je me suis éloigné.
C'est quoi un gros lard ?
Alors, ce n'est pas une insulte, ça s'écrit en un seul mot, un gros lard ou un pizzly en anglais, est le fruit de l'accouplement d'un ours polaire et d'un grizzly, l'ours brun qui vit au Canada. Plusieurs de ces hybrides, apparemment moins bons nageurs et moins résistants au grand froid que les ours polaires, ont été retrouvés dans le Grand Nord américain. C'est à cause du réchauffement climatique, les ours blancs vont vers le sud et les ours bruns s'aventurent au nord. Après tout, il y a 600 000 ans, les deux espèces n'en formaient qu'une.
À la Sauvette, j'ai pu embarquer sur un iceberg, je me suis éloigné. Je parle aux mouettes, j'apprends le cétacé pour trois arêtes.
C'est dans ta nature, signé Florent Guignard. RFI, il est 5h22 à Paris. Votre rendez-vous, Vivre ailleurs, s'intéresse au bottin mondial, premier annuaire pour les expatriés français. C'est une plateforme qui a pour ambition de regrouper les contacts de tous les professionnels français qui exercent leurs activités à l'étranger. Lancé il y a 6 mois, ce site a été initié par Aurélie Barial. Aujourd'hui établi à Atlanta, aux États-Unis. Ses explications au téléphone de Corinne Mandjou.
Le bottin mondial se veut un annuaire des sociétés et professionnels français à l'étranger.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour créer ce bottin ?
Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui posaient sur différentes pages de réseaux sociaux des questions pour trouver des professionnels de différents secteurs d'activité. Et partant de ce constat, je me suis demandé s'il existait un site qui répertoriait et qui fédérait toutes les informations qui sont un peu éparpillées partout. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que les gens qui posaient ces questions étaient tributaires de qui avait vu leurs questions, de qui avait la réponse et de qui prenait le temps de leur répondre. Et à l'autre bout de la chaîne, je me disais, des professionnels qui, eux, ont les compétences, n'ont pas forcément leurs clients sur ces pages-là. Et donc, du coup, il y avait pour moi beaucoup de pertes d'informations de part et d'autre. Un éparpillement un peu des informations. C'est comme ça que m'est venue l'idée, en fait, de fédérer un peu tout ça. Voilà.
Comment fonctionne ce bottin mondial ?
Alors, il n'y a que les professionnels qui ont un compte sur le site, compte auquel ils peuvent accéder en permanence pour changer leurs informations, pour que ces informations évoluent en même temps que leur activité professionnelle. Et eux payent un abonnement annuel de $12. Et pour le public, quels que soient les visiteurs qui vont sur le site, l'accès est gratuit.
100% gratuit.
100% gratuit, bien sûr. Ça fonctionne vraiment sur le principe un peu des pages jaunes. C'est-à-dire que si vous cherchez un professionnel en France, vous avez le réflexe page jaune. Mon objectif, en fait, c'est que les gens qui recherchent un professionnel français à l'étranger aient le réflexe bottin mondial et qu'ils y trouvent les différents professionnels dont ils ont besoin.
Comment vous faites pour contacter les expatriés qui figurent dans ce bottin ?
En fait, c'est notre 6e expatriation aux États-Unis. Et en tant qu'expatrié, j'ai encore un gros réseau personnel. Donc, j'ai commencé par mon réseau. J'ai commencé par les gens que je connaissais. Et je leur ai proposé, en plus qu'ils s'abonnent au Bottin Mondial, d'écrire leur parcours. Donc, je les ai interviewés. Et puis, eux m'ont mise en contact avec des gens qu'ils connaissaient. Et puis, ça a commencé à faire boule de neige. Et puis après, je commence à avoir des gens qui s'inscrivent en tant que professionnels sur le Bottin Mondial et que je ne connais pas.
Quelle région est la plus réceptive, à votre avis ?
Pour le moment, c'est clairement aux États-Unis, ce qui est assez logique parce qu'en fait, déjà, c'est là que je vis. Et en plus, les États-Unis sont la deuxième destination des expatriés français. Donc, c'est un peu logique que ce soit beaucoup plus connu pour l'instant aux États-Unis et que j'ai plus de contacts ici. Mais j'en ai aussi en Europe, j'en ai aussi en Afrique, en Australie. Le plus loin que j'ai eu, c'était la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une sculptrice française qui vit là-bas. Voilà, donc ça commence à se répandre.
C'est vraiment un bottin sur le principe des pages jaunes en France. Mais vous avez un plus, ce sont ces interviews de professionnels que vous contactez.
Oui, parce qu'en fait, mon objectif aussi, c'est un petit peu d'expliquer ce que font les Français à l'étranger. C'est intéressant aussi de dire, ok, ils sont partis, mais ils sont partis dans quel contexte ? Comment ils ont construit leur projet ? Et donc tout ça pour aussi inspirer d'autres personnes, pour faire réfléchir, pour évidemment montrer des choses positives. Et puis aussi que s'expatrier, c'est pas toujours évident. Et puis aussi pour créer des ponts, tout simplement. Il y a des personnes qui recherchent des stagiaires ou des gens qui recherchent des stages, ils peuvent contacter les personnes puisque ces personnes ont été d'accord pour donner leurs coordonnées. Et elles ont leurs fiches sur le site. Voilà.
Le Bottin Mondial, une plateforme lancée par Aurélie Barial, interviewée par Corinne Manjou. RFI, les 5h26 à Paris, on va faire une petite pause musicale. Bolamano de Bazarba, c'est tout de suite un peu de musique congolaise.
Tu m'as fait perdre la conscience, bébé. Je ne sais pas comment t'as fait. Pourtant, nous deux, c'était ton pied, mon pied. Je sais pas comment t'as fait. Bah oui, c'est vrai, j'ai été pardonné. Mais pardonner n'est pas oublier. Je t'avais dit que tu vas regretter ta vie, comment la roue a tourné. Occasion, yo soit, bébé, yo moko. Ok, na okata singa. Kuno kenaki ineli yo lingo zonye la nzungwa kala. Merci na yo bona buzobano lingi yo lati sanga. C'est vrai que je t'aime encore mais kuzonye la yo no bogate bébé. So ki lelo lingo songa. Ola mala na mabenyo soyo sala. Zwana peso su motema. Ola mano. Nyeza Boli mwakala esinatika. Depuis na zwa moto asika. Azana ye simple. Ma ebi kokitisa motema nangaso.
Bolamano de Bazarba. Cette demi-heure d'information est terminée. Merci à Arthur Geoffroy à la technique. Dans un instant, votre édition Afrique.
Occasion yo soit bébé yo moko kena okata singa kuno kena ki ineli yo lingo zonye la nzungwa kala.
Afrique, mémoire d'un continent avec Penaï Traoré.
D'abord protectorat allemand, puis partagé entre la France et l'Angleterre, le territoire camerounais sera soumis à deux régimes coloniaux différents, présageant de la future crise des régions anglophones. De quoi parle-t-on exactement quand on évoque cette crise ? Réponse ce dimanche avec nos invités.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Chantal Leroux.
Le Ballon d'Or 2024 sera décerné ce lundi soir à Paris. 30 nominés, un élu. Qui sera sacré meilleur footballeur du monde et succédera à Lionel Messi? L'ailier du Real Madrid, le Brésilien Vinicius Junior, par grand favori. Quels sont vos pronostics?
33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone. Lundi, à partir de 8h10 TU.
RFI.